Bienvenue sur les ondes d'IDFM Radio dans Les Mots des Livres. Et pour cette première de l'année 2026, d'abord tous mes vœux. Oui, on aurait dû commencer lundi dernier, mais à cause de la météo, de la neige, l'accès au studio était un peu compliqué pour moi. Néanmoins, nous sommes là, lundi 12 janvier, pour une première avec une invitée, Isabelle Mercamaheu, pour deux ouvrages autour de l'écriture. Voilà une belle résolution à faire pour cette année, écrire. Et elle va nous aider grâce à deux ouvrages pour les grands et les jeunes. Deux ouvrages à retrouver aux éditions Offris. Puis nous retrouverons Eric Van Ham pour sa chronique autour de la bande dessinée. Puis nous reviendrons sur l'année 2025 et l'année 2026 de nouveautés. Mais avant cela, un peu de musique. À tout de suite.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
garçon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre invitée Isabelle Mercamaeu. Bonjour.
Allô.
Oui, bonsoir même, je dirais.
Oui, bonsoir.
Tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette année 2026 et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler de deux ouvrages incroyables qui, je pense, devraient répondre à beaucoup d'attentes des lecteurs, car finalement, beaucoup de lecteurs ont envie d'être auteurs à leur tour. Beaucoup, d'ailleurs, écrivent dès le plus jeune âge, en même temps que lorsqu'ils découvrent la lecture, ils aiment aussi partager leurs pensées à travers l'écrit. Et c'est ce que vous nous proposez à travers 12 ateliers d'écriture créative aux éditions Ofris et 12 ateliers d'écriture créative pour les 9-12 ans, car vous n'oubliez pas les plus jeunes, car comme je viens de le dire, c'est souvent dès le plus jeune âge qu'on commence à écrire. Est-ce que j'ai des bêtises?
Excusez-moi, je vous entends...
Non, pas bien.
Ah. Oui, voilà, assez loin.
Ah, est-ce que vous m'entendez mieux là?
Oui, là c'est mieux. Alors, donc votre dernière question, je n'ai pas entendu.
Je disais, vous avez fait deux titres pour les 9-12 ans et pour les adultes. Et je me demandais si justement pour les 9-12 ans, c'est parce que c'est à cet âge-là que beaucoup ont commencé à écrire.
Alors, ou beaucoup ont commencé à écrire, ou dans ma pratique d'animatrice d'atelier d'écriture, parce que ces livres-là sont le fruit de mes 30 ans de pratique d'animation d'atelier dans des milieux très différents, et j'ai très souvent animé des ateliers en milieu scolaire ou en bibliothèque avec des enfants, entre autres, mais pour répondre à votre question, avec des enfants de ces âges-là, et peut-être qu'ils n'avaient pas eux-mêmes spontanément déjà commencé à écrire, si ce n'est dans le cadre scolaire, mais quand ils étaient en atelier d'écriture avec moi, ils avaient une appétence et une façon de s'y mettre de toute leur énergie, qu'ils soient à l'aise à l'écrit, qu'ils soient à l'aise à l'école ou pas, qu'ils soient francophones ou pas, d'origine. Et je trouve que quand l'occasion leur est donnée, en allant vraiment les inviter, là où ils peuvent réagir, répondre, ça a toujours donné des résultats extrêmement créatifs et extrêmement investis. Parce que quoi qu'on en dise, quand les enfants font quelque chose qui leur importe, si ça leur est présenté avec respect et attention, ils ne font pas ça du bout des doigts. Ils le font vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je trouve à la fois extrêmement respectable, et ils le font avec moins de retenue peut-être que ce que l'on fait quand on devient adulte ou adolescent, où on va commencer à plus se tracasser sur une image de soi. Là, ils le font vraiment avec une énergie pleine et entière que je trouve tout à fait louable, ce qui n'empêche pas qu'on puisse travailler avec eux la cohérence du texte et qu'ils entendent ces choses-là. C'est pas simplement un geste comme ça.
Alors justement, dans votre ouvrage 12 ateliers d'écriture créative, vous évoquez la difficulté qu'ont certains de se dire qu'ils vont être lus, voire relus et corrigés.
Oui, alors c'est une difficulté parce que, par exemple, quand un écrivain, je suis par ailleurs autrice et j'ai publié d'autres types de textes que ça, quand un écrivain publie son livre, il l'a très longuement travaillé dans le secret de son bureau ou de sa cuisine ou de je ne sais quoi, mais en tout cas de son ordinateur ou de son cahier. Il l'a montré peut-être à des personnes autour d'elle, mais des personnes choisies. Il le présente à son éditeur et quand le livre sort, c'est-à-dire quand il va être lu par le plus grand nombre, c'est un texte qui a déjà une certaine ancienneté. C'est un texte sur lequel celui ou celle qui a écrit a un regard un petit peu distancié. C'est un peu moins collé à lui ou à elle. Alors qu'en atelier d'écriture, on écrit son texte et 5, selon l'ordre de passage, 10 minutes ou une demi-heure après le fait d'avoir écrit la fin de son texte, on va être conduit à le lire à voix haute. Et ou alors, par rapport à ce livre, assez rapidement, on va le montrer à des personnes autour de soi. Et donc, ce sont des textes qui sont encore très collés à ce que l'on est soi-même, et ce qui explique que les retours qui doivent être faits par les personnes extérieures, ceux qui lisent ou entendent lire le texte par l'adulte ou par l'enfant, ça doit être accueilli de façon très intelligente et respectueuse. Ça ne veut pas dire « Oh, tu es un génie, ce que tu as fait est merveilleux », c'est pas ça. Mais c'est réaliser que écrire, ça n'est pas rien. Écrire, c'est quelque chose qui engage, et que celui ou celle qui s'y est adonné a mis d'elle-même, sans pour autant avoir forcément raconté sa vie. Et donc, ce mouvement-là mérite le respect et l'attention qui a été, qui serait presque équivalente à celle qui a été portée au moment où c'était écrit. Il m'est arrivé en milieu scolaire, comme ça, que certains textes soient très, je trouvais très intéressants. En atelier d'écriture, on ne se préoccupe pas de l'orthographe, ça n'est pas l'enjeu premier. L'orthographe, ce sera dans un deuxième temps, si on veut présenter le texte à l'extérieur. Mais que certains enfants le montrent à un grand frère, une grande sœur ou un parent, et que le grand frère, la grande sœur ou le parent, peut-être désemparé, ne sachant pas quoi répondre d'autre, ne va indiquer que les fautes d'orthographe. Et mais quand tu dis ça, c'est pas tout à fait vrai, ça s'est pas passé comme ça dans la vie, voilà. Ou je suis pas d'accord avec toi. Tous ces retours-là ne sont pas des retours de créativité d'atelier d'écriture. Si on fait une dictée et qu'il y a des fautes dans le cadre scolaire, ben oui, te dire ça c'est une faute, c'est tout à fait adapté. Mais la création littéraire n'appelle pas une orthographe parfaite d'entrée de jeu. Bien sûr, quand un livre est publié, les fautes d'orthographe sont corrigées. Mais donc c'est pour ça que c'est très important, et j'insiste là-dessus, dans le livre que j'ai écrit pour les 9-12 ans, parce que je me dis les adultes ont peut-être d'autres armes pour, même si ça n'est pas toujours vrai, mais bon, d'autres armes pour se protéger et pour choisir les personnes à qui ils vont faire lire leur texte. Mais les enfants, parfois, peuvent être très très désemparés à ne pas savoir qui croire. Est-ce que c'est l'animatrice d'atelier d'écriture qui a dit que le texte était très puissant, très sur ses pieds, intéressant, une grande cohérence dans le récit? Ou est-ce que c'est le grand frère, peut-être un peu jaloux, ou la maman ne sachant pas, pressée, ne sachant pas quoi dire, qui ne va parler que de la concordance des temps. Enfin, quoi qu'en atelier, la concordance des temps, on s'en occupe. Mais l'orthographe, on n'a pas le temps. C'est quelque chose qui est oralisé, donc on s'occupe pas de l'orthographe. Donc, c'est important de préserver quelque chose de l'intimité des enfants. Et moi, je leur dis, choisissez les gens et les moments où vous allez montrer votre texte. En atelier, il va être accueilli, pas de façon complaisante, mais de façon respectueuse et constructive. Dans la vie, les gens n'ont pas cette formation-là, donc allez-y doucement, comme ça. Voilà.
Oui, parce que la critique est constructive quand elle est bien amenée.
Oui, et puis, et comment dire, la critique est constructive quand elle permet que le texte soit plus solide.
Voilà.
Et quand elle s'adresse au texte et pas à la personne elle-même. Je me souviens, c'est un petit peu à côté ce que je vais vous dire, mais j'ai animé il y a 20 ans un atelier d'écriture dans le désert marocain avec un groupe d'adolescents plus grands, hein, c'est pas des 9-12 ans, ils avaient 16, 17, 18 ans. On était partis dans le désert marocain, c'est un groupe de jeunes d'un club de prévention avec lesquels je travaillais depuis longtemps, et on est partis écrire dans le désert. Et dans le groupe, il y avait deux sœurs qui étaient très très douées, et une fois j'ai fait une proposition d'écriture très douée, très charmante. C'était autour, alors là pour le coup, c'était clairement autobiographique, autour de leur généalogie, mais dans un travail métaphorique, trouver une phrase métaphorique pour évoquer telle ou telle personne de l'histoire familiale. Et je me suis dit, voyons comment ces sœurs vont réagir, parce que elles connaissent les gens dont il va être question. Et c'était des petites gamines vives comme des écureuils et fines. Et quand l'une a commencé à lire son texte, évidemment que l'autre a reconnu les gens de la vie, ce qui n'était pas notre cas à nous autres dans le groupe, et à moi l'animatrice. Et elle était très charmée, elle a dit « Ah ouais, c'est comme ça que tu en parlerais, toi. Ah, tu le vois comme ça. Ah oui, moi j'aurais pas dit ça. » Mais ça n'était absolument pas une façon de dire « ça n'est pas vrai ». C'était une façon de reconnaître, tiens, ça c'est ta subjectivité à moi, la mienne ce serait autre chose. Et c'était dit avec beaucoup de curiosité, mais c'était des filles d'une part très futées et qui écrivaient depuis un an en atelier d'écriture et qui avaient bien compris que les enjeux c'était le texte et pas de dire tu as raison de dire ça ou n'écris pas ça, on va penser que notre famille est un peu cinglée. Toutes les familles le sont un peu, et assez rapidement en atelier, les gens se détachent de ça. Mais donc voilà, c'est important que les retours puissent être des retours sur le texte et sur ce que ça provoque, cette lecture-là, et sans jugement d'autres valeurs que la capacité d'avoir reçu des évocations avec ce qui a été écrit.
Alors justement, dans vos deux ouvrages, 12 ateliers d'écriture créative qu'on retrouve aux éditions Ofris, vous avez donc utilisé votre expérience, on rappelle, plus de 30 ans autour de l'écriture, des ateliers d'écriture, et vous avez choisi aussi de vous accompagner de grands auteurs anciens et contemporains pour illustrer vos propositions d'écriture qui sont au nombre de 12. Alors évidemment, j'imagine bien que c'est votre expérience qui fait qu'ils sont 12, mais pourquoi pas 10, 13, c'est vraiment un choix éditorial ou c'est votre méthode qui est la plus efficace ?
Oui, c'est amusant dans cette question. Au départ, j'étais partie sur 14 séances en me disant, si ce sont des enfants, c'était très, ça n'a rien à voir avec ma pratique d'animation réelle en atelier. Je m'étais dit, pour le livre pour enfants, si ce sont des enfants qui sont en vacances avec les parents, les grands-parents, pardon, ça pourrait être deux semaines, les vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint, ça pourrait être l'occasion... non pas comme un livre de scolaire, de devoirs de vacances, mais un accompagnement, un atelier par jour. Et je me suis dit, il y a deux semaines, ça ferait 14 séances. Et en discutant avec l'éditeur, pour des raisons éditoriales, on s'est dit que 12, c'était bien. Et moi, j'en ai convenu que de toute façon, même quand on est en vacances chez les grands-parents, il y a le jour où on arrive et le jour où on repart, et que 12, c'est bien suffisant.
Alors, ce qui est voilà, formidable, c'est que... Et ce qu'on retrouve néanmoins sur ces 12 propositions d'écriture, c'est assez divers. On va retrouver du Apollinaire, du Paul Fournel, du Hervé Le Tellier pour les adultes, pour les enfants d'autres auteurs, ou certains qu'on pourra retrouver chez les adultes. Comment vous faites le choix ? Ce sont des auteurs phares pour vous, pour le travail ?
Alors, ce sont d'une part des auteurs dont j'estime infiniment le travail, des auteurs qui me plaisent à moi, mais ça c'est pas du tout uniquement ça. J'estime leur travail parce que c'est des gens qui sont en recherche permanente dans leur écriture, qui ont une écriture de grande qualité, et aussi une écriture qui invite l'écriture de l'autre. Il va y avoir certains auteurs, certains auteurs qui ont une écriture magnifique, mais qui seront, comme un peu fermés sur eux-mêmes. Et c'est un univers magnifique, comme on irait visiter un monument. Voilà. Et d'autres auteurs, comme par exemple Charles Julliez, qui est présent dans le livre pour enfants, mais Marie-Hélène Lafont, qui est présent dans les deux livres, ou Brigitte Giraud, présente dans le livre pour adultes, ce sont des auteurs qui ont une écriture. Ces personnes n'écrivent absolument pas pour que ensuite, après, on utilise leur texte comme texte appui d'atelier d'écriture. Mais ce sont des textes pour lesquels il y a une circulation entre le monde, l'énergie, la créativité de cet auteur et les évocations que ça suscite chez l'autre, de façon à ce que il y ait la créativité de l'autre qui se mette en marche. Parce que le texte appui, ça n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Elizabeth Bing en 1968 quand elle a créé les ateliers d'écriture à la française, c'est cette idée de ne pas dire aux gens écrivez ce qui vous passe par la tête. Parce que probablement il passerait pas grand-chose, ou des choses un peu intimes, voilà, donc qui sont pas l'objet d'une écriture. Et ce texte appui, c'est une façon de faire rentrer dans un univers créatif écrit, et de faire que, en plus de l'énoncé de la proposition d'écriture qui va être fait par l'animateur, il puisse y avoir une langue, des mots, des images qui puissent, en appui de cette proposition d'écriture énoncée par l'animateur ou l'animatrice, qui puisse faire venir une association sur son propre texte. Et parfois, ça va être des choses dans le récit, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans le récit d'un texte de Paul Fournel, il va y avoir à un moment une pompe à vélo, et c'est pas l'objet de sa nouvelle, mais il y a une évocation d'une pompe à vélo, et tel participant va me dire, quand j'ai lu le texte, ça m'a fait penser à coup de pompe, et j'ai écrit un texte sur mon immense fatigue. Voilà. Bon, qui était en lien avec ma proposition d'écriture. Mais dans ma proposition d'écriture, il n'y avait pas le mot pompe. Il était question d'écrire sur quelque chose qui survient dans la vie du personnage. Et c'est en entendant la lecture de la nouvelle de Paul Fournel que ça lui est venu. Donc, le texte appui, c'est une façon. Et d'une part, pour des gens, parce que je travaille avec des personnes non francophones, avec des personnes qui ont parfois passé énormément d'études ou qui ne sont pas très lectrices, ou avec des enfants qui ne connaissent pas encore toute la vie des créateurs adultes. Et donc c'est une façon de faire connaissance avec des auteurs, mais c'est aussi une façon de quitter l'oralité, parce que moi quand je présente la proposition d'écriture, et même dans les livres, c'est avec une langue volontairement oralisée, pour rentrer dans la langue écrite. Non pas que ce ne soient pas les mêmes mots, mais c'est une autre façon d'organiser la langue quand on parle et quand on écrit, une un peu autre façon, avec des variations. Céline, c'est une autre façon, moins grande que si on est chez un poète extrêmement, chez Ronsard, évidemment, bien sûr. Mais il y a quand même une distinction, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un qui est en face, on s'adresse à son texte avec un destinataire qu'on a à l'esprit. C'est pas la même chose. Donc le texte appui sert à ça, et donc je vais chercher des auteurs dont le travail d'écriture me semble excellent, et inspirant et invitant les autres. Et certains auteurs, comme Delphine de Vigan, enfin là, sur le nouveau livre, il y aura des textes d'elle, vous avez évoqué Paul Fournel, mais il y a aussi Cécile Coulon, Claude Pujade-Renaud. Certains auteurs sont des auteurs qui, particulièrement, font comme un appel d'air, comme ça.
Et c'est formidable. Moi, je découvre de nombreux auteurs et autrices. Et en plus, vous nous faites une petite bio sur chacun d'entre eux afin que on se cultive en même temps sur le monde littéraire, sur ces auteurs, ces écrivains qu'on ne connaîtrait pas forcément parce qu'on ne les a jamais lus à l'école, on n'a jamais entendu parler parce que ce sont des auteurs qui malheureusement n'ont pas percé jusqu'à leurs oreilles, jusqu'à leurs mains. Mmh. Et c'est une manière, moi, ça me donne presque envie d'aller découvrir le reste de leur roman, de leur récit, de leur poésie, car vous parlez aussi de poésie.
Oui. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est un des objectifs de l'atelier d'écriture avec ces textes appui, c'est d'ouvrir ce désir de lecture. Je ferai une petite allusion à la poésie juste après. Mais par exemple, j'ai animé pendant 20 ans au club du troisième âge à Villetaneuse. Et je me souviens d'une dame qui avait été nourrice toute sa vie et qui était quelqu'un qui était lectrice mais qui aimait beaucoup lire des romans feel good, voilà, ce type de romans qui sont pas du tout méprisables, que je ne méprise pas en tout cas, mais qui sont peut-être avec des formes un petit peu plus systématiques. Enfin, elle lisait beaucoup de collections Harlequin avec des formes fixes et puis parfois un travail de la langue un peu moins fourni, et au bout d'un moment elle vient me voir, elle me dit c'est embêtant hein, parce que j'arrive plus à lire les livres que je lisais avant, parce que tout ce que vous nous donnez comme extrait et du coup je lis les livres que vous évoquez, eh bien ça me semble quand même beaucoup plus original et surprenant, et maintenant quand je relis les livres que je lisais avant, à la moitié du bouquin je sais que l'infirmière elle va épouser le médecin et que les obstacles ils vont tomber, et ça m'amuse plus comme avant. Voilà, donc il y a cette invitation à lire. Bon, alors dans son cas, elle, ça avait un peu gâché son plaisir de lecture d'avant, mais elle découvrait un autre plaisir de lecture, et c'est aussi une invitation à lire ou au moins à entendre le texte appui ou à le lire dans les livres dans des styles auxquels on n'est pas familier, auxquels on n'aurait pas forcément pensé, et parfois la poésie qui peut sembler très loin de nous, ou très loin de certaines personnes qui sont comme ça en situation de venir pour écrire, et qui finalement vont se dire mais finalement c'est drôle, c'est joueur, ça me parle, ça me touche, ça m'émeut, et ça m'inspire. Donc c'est ça l'idée.
Et en plus, on peut le retrouver et dans 12 ateliers d'écriture créative pour les adultes et pour les enfants, car à l'école, si mes souvenirs ne sont pas trop mauvais, on nous invitait à écrire de la poésie.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est souvent une poésie avec des formes fixes et peut-être, pas toujours, hein, mais peut-être un peu à la manière d'eux, ce qui n'est pas le cas de ce que je propose là. Ma façon de dire, c'est voilà, avec ce type de direction que je vous donne, la proposition d'écriture d'aujourd'hui, tel auteur s'en est emparé de cette façon. Ne refaites pas la même chose, ça c'est fait. Et vous, vous en feriez quoi de cette question ou de ce rythme que je vous invite à aller explorer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça me fait, ce que vous me demandez là, ça me fait venir à l'esprit le fait que pour le livre pour enfants, je me suis dit que certains enfants, et ça je l'ai vraiment constaté en 30 ans, ou adolescents, mais même aussi des adultes, mais bon, plus des jeunes, ne vont pas forcément être très à l'aise avec la lecture, des enfants un peu dyslexiques ou des enfants malentendants, tout ça. Bon, ou des enfants pour qui la lecture, ça n'est pas leur truc, la lecture tout seul, mais qui, en atelier, quand je lisais les extraits, étaient très, très, très attentifs. Et je me suis dit, si c'est simplement des textes, parce qu'il y a des textes un peu plus longs, je propose d'écrire à partir de l'histoire de Robinson Crusoe, donc il y a ces 3 pages ou 4 pages de textes à lire. Et je me suis dit, ces enfants-là en atelier, ceux qui ne sont pas très lecteurs, écrivent des textes formidables. Ils ont adoré écouter ce que je racontais et ils écrivent des super textes. Là, ils seront tout seuls avec un livre. Peut-être qu'un adulte leur lira, mais peut-être pas. Et donc, c'est pour ça qu'avec mon éditrice, on a décidé que tout le livre pour enfants, je l'enregistrerai. J'ai donc enregistré tous les préambules, toutes les biographies d'auteurs et toutes les propositions d'écriture, tous les extraits de textes qui peuvent être écoutés avec un QR code, ce qui fait que même pour des personnes pas à l'aise comme ça avec la lecture, il y a cette possibilité-là.
Et c'est formidable car, comme vous le rappelez, c'est important d'avoir ce type d'accès pour tous à la lecture et à l'écriture grâce à vos 2 ouvrages, 12 ateliers d'écriture créative pour les 9-12 ans. C'est pour la jeunesse et pour les adultes. J'ai presque envie de dire, les deux se complètent, car pour celles et ceux qui veulent entamer, moi j'ai beaucoup aimé celui pour les 9-12 ans, ça donne envie, on se remet un peu dans cette... comment dire, dans ces chaussons d'enfant où on pouvait prendre la plume plus facilement, comme vous le rappelez tout à l'heure. Hein. Quand on est adulte, on a une autre pression, d'autres choses qui nous travaillent et qui nous empêchent peut-être de passer à l'acte. Alors que lorsque l'on lit vos ateliers d'écriture pour les 9-12 ans, on se dit pourquoi pas. Ça paraît plus évident, mais c'est une impression. Alors, je laisse nos amis auditeurs le découvrir avec, je rappelle en bonus, le livre lu par vous-même, Isabelle Mercamaheu. C'est paru aux éditions Offris. Celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous cliquez sur le site offris.fr. Et vous, Isabelle Mercamaheu, on peut vous lire en librairie, on peut vous croiser aussi lors de vos ateliers.
Alors, des ateliers, j'essaie d'en faire un tout petit peu moins, et c'est pour ça que je fais ces livres. Il va y en avoir 2 autres, un pour l'écriture autobiographique et un pour les adolescents, collégiens, lycéens. Et c'est une collection qui pourrait se décliner dans les différents lieux. J'ai travaillé beaucoup en psychiatrie et en milieu carcéral, en maison de retraite. Enfin, donc, ce serait dans l'idée qu'il puisse y avoir d'autres livres. Donc, c'est une façon de aussi pour moi de peut-être un tout petit peu moins animer d'ateliers d'écriture en direct, et ben, y a des présentations aussi en librairie, mais voilà, donc il y a ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui voudraient aller en atelier d'écriture, c'est de se dire que c'est important de le faire avec des animateurs qui sont vraiment formés et qui vont faire des retours sur le texte et pas dire ah c'est une bonne idée de dire ça ou je suis d'accord avec toi. Tel n'est pas l'enjeu. Ce qui compte, c'est voilà, ce texte-là, est-ce qu'il est sur ses pieds ? Et par rapport à ce que vous disiez de la retenue des adultes, j'ai le souvenir, il y a une 20aine d'années, d'une femme dans un groupe qui avait écrit pendant 1 an, atelier hebdomadaire, avec un monsieur, c'était une dame très distinguée, un autre monsieur très distingué, diplomate, et à la fin de l'atelier, elle dit, tu vois François, c'est très étrange ce qu'on a vécu cette année, c'est que je ne connais rien de toi, rien de ta vie, je ne sais pas si tu es mariée, tu ne connais rien de moi. Et tout ce que nous avons partagé à travers ces textes, qui étaient autobiographiques ou de fiction, hein, ça n'a pas d'importance, hein, c'est quelque chose de mon monde intérieur que même mes plus privés souvent ne connaissent pas. Mon mari, il y a des, enfin mes enfants, il y a des choses comme ça, que j'ai pu écrire en atelier d'écriture, de la réalité ou de la fiction, que les autres ne connaissent pas. Et toi, que je ne connais pas du tout dans la vraie vie, tu as eu accès comme ça à ce monde de ma créativité. Elle dit, c'est une très intéressante façon d'être en lien, un atelier d'écriture.
En effet, voilà. Et pour celles et ceux qui auraient la peur de la page blanche, c'est aussi une source d'inspiration que vos deux ouvrages, 12 ateliers d'écriture créative. Et on invite tous nos amis auditeurs à le découvrir en librairie. Vous nous disiez que vous étiez en dédicace dans certaines librairies. Est-ce que vous avez des dates où on peut retrouver toutes ces informations?
Alors, il y en a une qui est déjà passée, c'était à la librairie d'Hermont dans le Val d'Oise, mais c'était juste au moment de la sortie du livre, et il y aura le jeudi 29 janvier à la librairie qui a le très beau nom, Le Rêve du Papillon, à Paris dans le 5e, une présentation avec une interview comme ça, et puis des petits jeux d'écriture que je proposerai le 5 janvier à la librairie Le Rêve du Papillon. Et il y en aura peut-être d'autres, ne sais pas. Pour le moment, c'est ça.
On peut retrouver votre agenda sur le site des éditions Ofris?
Oui, certainement.
Très
oui,
bien.
Oui, tout à fait.
Je n'ose pas vous demander si vous êtes sur les réseaux sociaux, car n'y étant pas moi-même.
Vous faites bien, parce que depuis 30 ans que je travaille, on m'a toujours dit « mets-toi sur les réseaux », et j'ai tellement eu de travail, tellement eu de lieux et d'occasions de faire travailler l'écriture créative, que je ne voyais pas ce que ça m'apporterait de plus, sauf peut-être à m'empêcher de dormir la nuit, parce qu'il faudrait que je travaille la nuit. Donc, je ne suis pas sur les réseaux.
Très bien.
J'ai une petite page Facebook qui a été ouverte il y a 5 ou 6 ans à l'occasion de la sortie d'un de mes romans qui s'appelle Marcher sur son ombre. Et cette page Facebook ne contient à peu près que ça. Je ne suis pas sur les réseaux.
Donc pour vous retrouver, on va en librairie et également sur le site des éditions Ofris pour suivre votre actualité, notamment vos dédicaces, rencontres auprès de vos lecteurs. Merci encore à vous, Isabelle Mercamaheu. Encore une fois, très belle année 2026 et j'espère à bientôt lors d'une rencontre dans une librairie. À bientôt.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Laurence. Très bonne année également à vous, avec des grandes joies de lecture et d'écriture.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Tu m'embrigues et m'embrigues et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi silence et quand j'entends toi, tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Bah, je suis ton autre, si nous n'étions pas d'ici. Thank you.
jamais trop loin de l'autre, nous serions maudits. Tu seras ma dernière seconde, car je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre chroniqueur Éric Boham. Bonjour et bonne année.
Merci Laurence, bonne année à vous et bonne année aussi à l'ensemble des auditeurs.
Eh bien, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un des plus gros vendeurs de cette fin d'année 2025 qui vous a beaucoup plu et qui nous ramène à nos bonnes origines gauloises.
Eh oui, tout à fait, puisque je vais vous parler aujourd'hui d'Astérix en Lusitanie, comme vous venez de le dire. Parce que, en effet, comme la plupart d'entre nous, hein, j'imagine, j'ai lu certains épisodes des aventures d'Astérix lorsque j'étais enfant. Il faut dire que le petit Gaulois et ses amis de l'irréductible village font partie du patrimoine national depuis son apparition dans le numéro 1 du journal Pilote, et ça nous rajeunit pas, ça nous ramène au 29 octobre 1959. Comme vous le savez, René Goscinny pour les textes et Albert Uderzo pour les dessins ont, grâce à ce personnage et à la galerie de portraits qui l'entourent, hein, parfaitement traduit ce qui forge l'essence même de la France, le courage, la fidélité, la camaraderie, l'obstination, la créativité, mais aussi, il ne faut pas se cacher, la bouderie, la gourmandise, l'esprit de contradiction, la protestation, enfin j'en passe et des meilleurs, parce que effectivement la liste serait bien trop longue pour une simple chronique radio. Enfin, voici en fait que le 25 décembre, figurez-vous que le Père Noël a eu la bonne idée de m'offrir le dernier tome des aventures d'Astérix le Gaulois. Un cadeau, justement, qui m'a ramené quelques années, voire même quelques décennies, pour tout dire, en arrière. C'est-à-dire que dans ce 41e opus, hein, dont les textes de Fab Caro ont été mis en image par Didier Conrad et coloriés par Cyril Ebarki, l'histoire débute avec l'accostage d'un bateau, celui du marchand africain Épi de Maïs, qui vient proposer aux villageois des produits exotiques comme de la pourpre de Tyr, de la soie de Luoyang, de la myrrhe de Thèbes, et pour vous, mesdames, dixit, le clou du spectacle qui va vous faire rêver. Sauf que, à ce moment-là, les femmes voient débarquer un drôle de petit bonhomme, brun, moustachu, qui n'a clairement pas le physique du Bélat, qui était le valeureux Vercingétorix. Cet homme-là, c'est un Lusitanien du nom de Boulquet, qui, avec son drôle d'accent, vient solliciter l'aide du chef Abraha Courcy. Mais pourquoi donc? Bah, tout simplement parce qu'il le connaît, pour avoir constaté lors d'une précédente aventure la force herculéenne que procure la potion magique concoctée par le druide panoramique, comme vous le savez. De l'aide? Mais de l'aide pour quoi faire? Eh bien, tout simplement pour venir en aide à son ami Mavubès, qui a été condamné par Jules César en personne pour lui avoir livré, et du moins ce qu'on lui reproche, un garum empoisonné. Le garum, comme l'explique panoramique aux autres villageois, et comme je l'ai compris moi aussi, c'est une sauce à base de poisson très appréciée des Romains, en général, et par Jules César en particulier. En réponse à cette tentative d'assassinat supposée, Jules César a prononcé une peine sans appel. Mavubès sera bientôt jeté au lion à l'occasion d'une fête lusitanienne. Alors Abraha Courcy s'insurge immédiatement. Quoi ? C'est inadmissible ! Nous ne laisserons pas un pauvre innocent subir le poids d'une telle injustice. Et puisque le chef répète haut et fort l'adage selon lequel les ennemis de nos ennemis sont nos amis, il ordonne à Astérix et Obélix, sans oublier bien sûr le petit chien et des fils, de s'embarquer sur le bateau d'Épi de Maïs pour rejoindre la Lusitanie dans les meilleurs délais afin de sauver ce pauvre Mavubès. Le sauver, bah, c'est évidemment découvrir ce qui a bien pu ajouter du poison dans le garum fabriqué par Mavubès. C'est comprendre à qui pourrait bien profiter le crime. C'est ce que je vous propose de découvrir à votre tour en vous embarquant dans cette aventure où, bien entendu, les Lusitaniens sont caricaturés comme il se doit, puisque nos amis gaulois vont notamment rencontrer des maçons, trouver une multitude d'échoppes proposant de la morue et de la faïence. On trouve aussi une galerie de personnages habituels de la série, à commencer par les pirates qui, décidément, sont abonnés au naufrage. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, procurez-vous cet opus d'Astérix qui, sans trahir de secret, hein, se terminera par un, voire plusieurs banquets, partout à 10. Il ne faudrait pas que le sanglier vienne à manquer.
Eh bien, merci Eric Wab, ça nous a, enfin moi, ça m'a donné beaucoup envie de me plonger dans la lecture de ce dernier Astérix. On pourra retrouver votre chronique sur votre blog
vanham.over-blog.com.
Et j'ai cru comprendre que l'année 2026 allait être aussi une belle année pour vous, car vous allez passer de l'autre côté, vous allez être édité.
Oui, tout à fait, j'ai le plaisir d'avoir un nouvel ouvrage édité, c'est un recueil de poésie. Donc qui s'intitule Les racines de l'espoir et pour changer un peu de ce qui se fait habituellement, chaque poème a donné lieu à une illustration en face. Donc, l'illustratrice qui a travaillé sur le projet avec moi a lu chaque poème individuellement et puis selon l'inspiration a proposé une illustration.
Son nom peut-être pour
Les racines de l'espoir et l'illustratrice c'est Louisa Tabny.
Et sortie prévue dans
La sortie vient juste d'être réalisée à l'instant.
Ah, c'est tout chaud alors.
Vous avez la nouvelle en primeur.
Eh bien, c'est super. Merci à vous, Eric Voham. On aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Et encore une fois, très belle année qui, je vois, commence plutôt pas trop mal.
Mais oui, c'est vrai. Bonne année encore à vous.
Merci. À bientôt. Au revoir, Eric.
À bientôt. Au revoir.
Moi, je prie la rocaille à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Venez fermer ta touche entendue.
La machine à penser est cassée.
C'est l'histoire des enfoirés.
Les restos du cœur serré.
Tout se cache, quand tout se cache. défunt.
IDFM Radio, le média valdoisien. IDFM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute des mots des livres sur les ondes d'IDFM Radio. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. L'heure pour moi de vous rappeler que nous sommes en ce mois de janvier, le mois des nuits de la lecture, qui reviennent pour une 10e édition sur le thème ville et campagne. Si vous voulez en savoir plus sur le programme près de chez vous, vous pouvez cliquer sur le site nuitdelalecture.fr, nuit de la lecture tout attaché. Ça se tient donc du 21 au 25 janvier 2026, un peu partout en France. Vous pouvez d'ailleurs, en cliquant, vous allez ensuite il vous propose une carte interactive moi je voulais vous en parler car habitante du Val d'Oise, l'USARCH vous propose sa nuit de la lecture. C'est le 23 janvier à la bibliothèque intercommunale de l'USARCH qui se trouve rue François de Ganay. C'est gratuit mais il faut réserver au préalable car les places sont limitées et vous pourrez ainsi découvrir tout ce que propose cette 10e nuit de lecture avec au programme dès 20h un spectacle immersif Nuit d'encre. Vous allez passer une nuit clandestine dans des livres, découvrir la bibliothèque comme vous ne l'avez jamais vu, il fait nuit. Et puis, je ne vais pas vous en dire plus, à 21h, il y aura une soupe à l'oignon et un quiz littéraire. Et vous l'avez compris, donc il faut s'inscrire au préalable. Pour cela, vous avez un numéro, le 01 34 71 21 20. Ou le site de la bibliothèque. Mais le plus simple, peut-être, c'est de se rendre directement à la bibliothèque pour vous inscrire avant, évidemment, l'événement qui se tient, je vous le rappelle, à l'USARCH, le 23 janvier. Et pour celles et ceux qui veulent savoir ce qui se passe pour leur nuit de la lecture, vous cliquez sur le site nuitdelalecture.fr. Alors, .fr, oui, nuitdelalecturetoutattaché.fr, vous verrez ce qui se passe sur le thème ville et campagne du 21 au 25 janvier. Eh bien, nous, on va se quitter en musique. Je vous rappelle que nous étions avec Isabelle Mercamae pour ces deux titres, 12 ateliers d'écriture créative pour l'adulte et 12 ateliers d'écriture créative pour les 9-12 ans. Ce sont deux ouvrages formidables qui vous permettront peut-être de faire naître une vocation ou de vous y mettre tout simplement à l'écriture. C'est paru aux éditions Ofris. Et ensuite, nous allons retrouver Eric Moham pour sa chronique autour du dernier album d'Astérix. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus d'infos sur notre blog lesmots-deslivres.over-blog.com. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes d'IDFM Radio. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. Au revoir. 1, 2, 3, 4. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you
way you break it all away.